Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne sur Europe 1. Soirée de confidences, de partage et d'échanges. Soirée de mots, de silence, de larmes et heureusement aussi de sourires. Soirées uniques, chaque fois recommencées, parce que vous êtes unique et que chaque personne qui appelle pour se raconter a une histoire unique. Même si, bien sûr, à travers chaque histoire, nous pouvons tous retrouver une situation qui nous ressemble, une situation qui ressemble à celle d'un proche. Parce que finalement, nous menons tous un peu les mêmes combats, nous sommes tous sur des chemins qui se ressemblent. Alors, si vous vous sentez coincé, si vous avez envie d'avancer plus sereinement sur votre chemin, faites un premier pas en nous appelant ce soir. Une fois que le premier pas est fait, qu'importe ensuite la vitesse à laquelle vous progressez, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ceux qui ne font rien. Pour me rejoindre dans ce beau studio d'Europe 1 ce soir, un seul numéro de téléphone, le 3921. Estelle et Maxime sont prêts à vous accueillir au standard. Ce sont eux qui vous guideront jusqu'à moi pour qu'on puisse se parler en toute sincérité. Vous savez que vous pouvez aussi participer à l'émission, apporter votre point de vue, donner un conseil par SMS. Vous faites le 739-21, 739-21, en commençant bien par le mot nuit. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Le chef d'orchestre de cette soirée, c'est Fabrice Fougerouze. Et la Libre Antenne, votre Libre Antenne, ça commence maintenant.
22h30, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est aussi par SMS que vous pouvez répondre à la question du jour. Si ça vous intéresse, sinon vous passez. Combien d'amis, de vrais amis avez-vous? Est-ce que c'est important pour vous l'amitié? Combien de vrais amis avez-vous? Répondez-moi, je transmettrai vos SMS au fil de la soirée.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et mon premier appel ce soir, c'est celui d'Annie. Bonsoir à vous, Annie.
Oui, bonsoir et merci de me reprendre ce soir.
Vous avez bien dormi?
Cette nuit, non. Non, justement.
Vous allez me raconter non. Tout ça. Alors, je résume juste un tout petit peu pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier soir. Nous avons fait connaissance un peu avant la fin de l'émission. À l'origine, vous m'aviez appelé pour qu'on parle de tas de choses, notamment autour de l'hypnose. Donc, on a passé un petit moment à discuter de l'hypnose. Et puis, au moment où on allait terminer ça, vous avez commencé à mentionner à votre ex qui était un pervers.
Oui, c'est le mot. Je ne sais pas s'il est pervers. En tout cas, il en a beaucoup de points,
des caractéristiques, oui, tout à fait.
Ouais. Et comme vous disiez, oui.
Non, pardon. Je voulais juste pour terminer. Je vous avais juste proposé qu'on se retrouve ce soir pour parler de ça justement. Voilà.
Oui. Et comme vous le disiez dans l'annonce là du début, je me sens coincée en fait dans mon chemin parce que je suis c'est pas vraiment encore mon ex.
Futur ex.
Alors j'espère oui futur ex. Mais justement, je n'arrive pas à ce qu'il soit mon futur ex.
Alors racontez-moi déjà, déroulons la pelote si vous le voulez bien et redémarrons au début de l'histoire.
Oui. Ça fait 9 ans que je vis. Hein, on s'est rencontrés il y a 9 ans. Et je vis chez lui depuis 7 ans. Je travaillais encore pendant 2 ans et après, donc j'habitais chez moi. On se voyait de temps en temps. Et il y a 7 ans, je suis venue habiter chez lui tout en gardant ma maison. Donc lui, déjà, il voulait que je vende ma maison, que j'achète la moitié de sa maison. Enfin bon, dès le début dans notre relation, je me suis aperçue qu'il était assez rigide. Il était autoritaire, il me faisait des remarques tout le temps sur des petits points de détail. Ça me blessait en fait. Et il me disait, tu n'acceptes aucune remarque. Et bon, moi, je lui disais, mais un couple, c'est pas fait pour se faire des remarques. Donc, peu à peu, cette relation était compliquée.
Pas si rose que ça.
Pas, non, voilà. pas rose du tout. Bon, il y avait des bons moments, parce qu'il a des moments... avant, je disais adorable, ensuite j'ai dit gentil. Ben non, maintenant je dis...
passable.
Il a des moments, passable ou normaux d'un homme normal, mais c'est de plus en plus rare, en fait. Et il est exclusif.
J'ai l'impression, oui, en vous écoutant.
Il est possessif.
Ouais.
Peu à peu, il trouvait toujours à revoir quand j'allais dans ma famille, chez mes enfants. Il fallait que j'y aille en coup de vent.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il fait le vide autour de vous ?
Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui, il a fait ça, oui, oui. Mmh. Mmh. Trouvant mes centres d'intérêt sont jamais légitimes. C'est
tout ce qui vient de vous n'a pas de valeur, quoi.
C'est ça, oui, oui. Tous mes centres d'intérêt sont mineurs, mes connaissances sont mineures, ses connaissances à lui sont majeures, sont légitimes. Tout ce que j'aime, ça n'a pas de valeur, quoi. Et peu à peu, au fil des années, je me suis éteinte.
Ben oui, je ne suis pas d'accord avec vous, Annie, ce n'est pas vous qui vous êtes éteinte, c'est lui qui vous a éteinte.
Oui. Oui. Et
ouais.
C'est ce qu'on me disait autour de moi, c'est plus toi, quoi. Donc, on s'est séparés deux fois, mais je ne tiens pas à la séparation. Lui non plus, d'ailleurs. Et donc, même si je sais que c'est une relation qui n'est pas bonne pour moi.
C'est ce qu'on appelle une relation toxique.
Oui. Mmh.
Vous êtes dans une dépendance, si j'entends bien.
C'est ça.
Ouais.
Et ma tête le sait. Je voudrais bien me sortir de ça. Mais dès qu'on parle de séparation, je me sens très mal. Rien ne va plus, quoi. Je suis en panique, je suis très malheureuse. Et voilà, j'aimerais bien arriver à vivre, arriver à la séparation,
sans
ce mal-être.
À comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas.
Oui.
Pour parler de lui déjà un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il y a un témoin, n'importe qui avec vous, est plutôt charmant?
Ah oui.
Ouais, voilà. C'est typiquement le profil du pervers narcissique, ça.
Ah oui.
Je crois que vous l'avez bien compris.
Ah oui, oui. Notre couple est envié.
C'est ça, la vitrine est magnifique toujours. Hein.
Ah oui. Ah oui, on représente l'image du couple parfait.
Alors, ce qui est vraiment intéressant, vous savez que le terme de perversion narcissique, ça vient du latin per vertare, qui veut dire invertir, changer le sens. Et quand vous me disiez tout à l'heure, quand je lui demande, je lui fais un reproche, il me dit oui, mais c'est toi qui es susceptible. Ça, c'est typique, vous voyez, c'est immédiatement reporté sur l'autre.
Ah oui, oui.
Changer le sens de chaque situation, comme ça.
Exactement. Il me culpabilise, oui, oui.
Bah oui, bien sûr. Et puis, il y a l'extérieur, il y a ce qu'on montre, et là, forcément, c'est, ouais, comme vous dites, notre couple est envié, et puis la porte se referme, et là, c'est plus le même scénario.
Ah non, c'est vraiment le... Je me sens seule, en fait, chez lui. Je me sens seule. Je suis chez lui, mais seule.
Mais c'est
et
ça.
Là, ça fait 3 mois que je vis chez moi. Ça fait 3 mois qu'on est séparés. Mais on se côtoie encore. On a un lien, on se téléphone, il m'appelle.
Mmh. Lui ne vous lâchera pas, hein, ça c'est clair.
Oui. Et pourtant, il me dit qu'il veut cesser cette relation. Et donc, il me dit qu'il veut cesser la relation. Donc, on se sépare. Mais dès que je lui dis, bon, d'accord, j'accepte. On fait le nécessaire. Et là, il me dit, non, mais t'es pas obligé de prendre toutes tes affaires. On est encore un couple. On continue à se voir.
C'est un jeu extrêmement malsain, ça.
Ouais, bah oui.
Est-ce que peut-être vous ne le savez pas, est-ce que c'est un homme qui a eu des relations compliquées avec sa propre mère quand il était enfant?
Je ne sais pas. je lui ai déjà posé la question. Bon, le couple de ses parents, son père était assez macho, enfin, comme on dit. Parce que lui, il me dit, je suis un tout petit macho. Il a cette image de l'homme qui a le pouvoir, quoi.
Oui, c'est pour ça que c'est souvent intéressant d'aller regarder un peu dans quel contexte ils ont grandi, ces gens-là.
Oui.
Qui développe ça. Cela dit, ça, c'est pas ça qui va vous sauver, vous, si ce n'est vous permettre de comprendre. La première chose, vraiment, c'est de prendre conscience, et je crois que c'est déjà le cas, de prendre vraiment conscience que de ce que vous me dites là, vous êtes vraiment avec un homme qui est un pervers narcissique.
Oui.
Et quand on a pris conscience de ça, et ça, je sais que vous n'allez pas vouloir l'entendre, mais il faut pourtant vraiment vous le dire, arrêtez de penser qu'il va changer.
Bah oui.
Parce que ça, ils sont champions du monde pour vous faire croire que ça va changer.
Oui.
Jamais. Le pervers narcissique ne change pas.
Oui. Oui, c'est vrai, je l'ai cru.
Mais
combien de fois j'ai cru qu'il allait changer parce qu'il avait des moments agréables, donc là, j'y crois. Et puis, d'un seul coup, ça peut être, mais vraiment d'un coup, d'un quart d'heure à l'autre, quoi, d'une minute à l'autre, c'est terminé, quoi. C'est tout l'inverse.
Il souffle le chaud et le froid.
Oui, j'ai l'impression qu'il est double et que dans son corps vient se glisser un autre. J'ai l'impression de vivre avec deux personnes.
Il y a un peu de ça aussi. Il y a celui qu'il est à l'extérieur et celui qu'il est avec vous.
Ah oui.
Ouais, c'est très clair. Vous savez qu'il y a beaucoup de sites qui sont intéressants, qui parlent de tout ça. Quand on a encore un léger doute, notamment, il y a une page Facebook que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Pervers narcissique, comment les démasquer ?» avec beaucoup de témoignages et de liens intéressants.
Mmh.
Allez, vous m'avez dit que vous n'êtes pas très branché réseau, je crois. Hein. Mmh. Si
non, pas réseau, mais oui, si je peux, j'y vais parfois.
Parce que c'est intéressant de lire des témoignages d'autres femmes et de se dire, bah, tiens, finalement, ce que je suis en train de vivre, ça ressemble drôlement à ça. Quoi. Ça ouvre les yeux encore davantage, vous voyez.
Oui, mais moi, je le sais maintenant. Je l'ai compris, ça. Mais... Je n'arrive pas à franchir le pas de la séparation.
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand il y a une séparation ? Vous rentrez chez vous avec vos petites affaires, là, comme ça a été le cas.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous arrive là, dans votre esprit, dans votre cœur ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
J'ai l'impression d'être seule, c'est très compliqué. Mais pourtant, en fait, depuis 3 mois, là, je vis seule chez moi.
Mmh.
Et je suis bien. En fait, j'étais très mal. J'ai fait même une dépression alors que... Je n'avais jamais fait ça dans ma vie parce que là, j'étais tiraillée. Peu à peu, là, j'étais tiraillée entre mes enfants, lui, parce qu'il me veut 24 sur 24 avec lui. Il ne supporte pas que je m'éloigne et que je vois mes enfants. Donc, c'était devenu invivable. Et peu à peu, voilà, je suis tombée d'un seul coup. J'ai fait un burn-out, un épuisement. Et là, depuis que je vis chez moi, je m'en sors, je vais mieux, je vis bien, je m'occupe, je me sens bien, mais je suis encore connectée avec lui. En fait, c'est comme si je peux vivre toute seule, il n'y a pas de problème, mais il faut que je sois encore connectée à lui. Et si on coupe la connexion, si je n'ai plus de contact avec lui du tout, là, je vais pas bien. Je ne sais pas, j'arrive pas à franchir le pas, quoi.
Annie, on marque une petite pause, Annie, si vous permettez.
Oui.
Et on reprend cette conversation dans un instant.
Mm-hmm.
À tout de suite. Alors Annie, vous me disiez que malgré la prise de conscience de cette relation qui est quand même plutôt toxique, qui ne vous a pas vraiment apporté beaucoup de positif, vous n'arrivez pas à faire ce premier pas. Alors là, on va arriver typiquement dans un thème qu'on aborde souvent ici, qui est la différence entre l'amour et la dépendance, et l'attachement. J'ai évidemment l'impression, en vous écoutant, qu'il y a beaucoup plus d'attachement que d'amour dans cette histoire-là, mais surtout, ce que je crains, c'est que peut-être que quand vous êtes seule comme ça, quand vous vous repassez le film de votre histoire, vous mettez un filtre et que vous n'êtes pas forcément très honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous repassez le film de l'histoire que vous auriez aimé vivre avec lui.
Oui.
Mais pas forcément la réalité. Si, par exemple, quelle est la pire chose qui vous est faite dans son comportement ? Il est allé jusqu'où ? dans l'humiliation, dans les reproches, dans tout ça.
La pire chose, c'est que ma fille avait un enfant pendant le confinement et il m'a dit je ne partage pas. C'est le bébé ou moi.
Oui, d'accord.
Ça,
c'est grotesque.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et c'est pour le coup extrêmement pervers.
Ouais.
Ok. Et là, ouais. Comment vous avez réagi à ce moment-là?
Ben là, j'ai compris que cette relation pouvait pas continuer.
Mm-hmm.
C'était obligé. Le choix était tout fait. Donc, c'est suite à ça qu'on s'est séparés, là, il y a 3 mois.
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça, des situations où vous vous êtes sentie maltraitée, humiliée, rabaissée, peut-être devant des gens? C'était quoi, par exemple?
Devant des gens, non.
Non, ça, jamais.
Non. Non, jamais. Non, au contraire. Non.
Et seule?
Seule, oui. Oui. Bah oui, dans les petites choses courantes. Ce que je fais, c'est jamais suffisant. Si j'ai fait ça, il fallait faire autre chose. Si je ne l'ai pas fait, ben c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà, c'est toujours l'inverse de ce que je fais qu'il fallait faire.
Oui, vous n'êtes bonne à rien, quoi.
Non, voilà, oui.
Ah oui.
Si... Voilà, mais dans mes discussions, c'est toujours lui qui a raison dans nos discussions. Mes centres d'intérêt ne sont pas légitimes, sont petits, les siens sont grands. C'est au quotidien comme ça. Je sais pas ce qu'il va inventer. Je peux pas deviner ce qu'il va inventer pour me rabaisser, quoi. Mais lui, il me dit que c'est le contraire. Il me dit non. Il me dit que c'est moi qui prend pas bien les choses.
Alors, j'ai bien compris. Je vous amène sur ce terrain-là, Annie, pour que ça soit peut-être plus clair dans votre esprit. Quand vous êtes seule chez vous, au lieu de vous faire le film d'une belle histoire, faites-vous le film de ce que vous venez de me raconter là.
Oui.
Soyez dans la réalité, dans la vérité face à vous-même.
Oui. Mais vous avez raison. Parce que le film que je viens de vous raconter, je sais me le faire quand je suis avec lui. Et dès que je sens la séparation, je me fais le film tout inverse. Je me fais le film des bons moments.
Exactement, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est un grand classique, on est tous comme ça. Et non seulement, 9 fois sur 10, on se fait le film des bons moments, mais pour être très sincère, on en rajoute. Quelquefois, on enjolive aussi. On se fait le film de l'histoire qu'on aurait aimé vivre. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien, dans le fond, si c'était pas... Allez, finalement, c'était pas si grave. Bon, quand même, c'était bien. Non, mais j'aurais peut-être dû... J'aurais pas dû... Et là, on se raconte une autre histoire.
Mmh.
Et on entretient notre propre malheur en faisant ça.
Ah oui.
C'est pour ça que j'insistais pour que vous me racontiez des moments vraiment douloureux, difficiles, insultants.
Oui.
Parce que le vrai scénario, il est là.
Mmh.
Et on a tous beaucoup trop d'imagination quand on se retrouve seul et qu'on se repasse des films comme ça.
Oui, c'est vrai.
Donc déjà, première étape, repassez-vous le bon scénario, s'il vous plaît.
Oui.
Et le bon scénario, il n'est pas très sympa.
Non, il n'est pas du tout sympa et il a complètement... inhiber ma personnalité, quoi.
Et ça c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de messages de soutien qui arrivent, évidemment, de Mamie Tam Tam qui vous dit « Vous êtes encore sous son emprise, prenez vos affaires et partez tout de suite.
» Oui, mais là, je suis partie. Oui.
Rémi qui dit « Recentrez-vous sur vous et n'écoutez pas ces belles paroles, mais écoutez plutôt votre petite voix intérieure. Courage, vous dit Rémi. »
Oui.
Marie-Vonne qui dit « Fuyez, la vie est tellement belle. Courage, si vous êtes conscient du mal qu'il vous fait, alors fuyez. » Car il se nourrit de vous. Ouais.
Oui.
Arrêtez d'aimer les gens qui ne sont pas capables de vous aimer, Annie.
Oui. Mmh.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour aller plus loin, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à franchir ce pas. Qu'est-ce qui vous fait si peur dans la solitude et dans ce sentiment? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon?
Oui, certainement. Oui.
Je ne sais pas, je pose la question. Ça, est-ce que ça réveille quelque chose de cet ordre-là, peut-être?
Ah oui. Oui, okay. Je pense. Oui.
Est-ce que vous êtes allé chercher un petit peu ce qui pourrait être en rapport avec ça dans votre passé, dans votre enfance?
Oui, je vais chercher, oui.
Qui vous a déjà traité comme ça ou qui vous a déjà abandonné ou donné la sensation d'être, de ne pas avoir d'importance?
Consciemment, je ne sais pas. Mais j'en ai pas vraiment conscience que quelqu'un m'ait donné cette impression. Mais bon, je sais que ma mère... donc, on parlait de la naissance.
Oui, hier, oui.
Et donc, je suis née coordonnée avec les forceps et ma mère ne m'a pas regardée pendant 2 ou 3 jours. Elle m'a avoué ça il y a quelque temps. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact, je ne sais pas, sur le bébé je ne sais pas.
Il y a peut-être une petite blessure de rejet, mais ça, elle ne me paraît pas suffisante pour engendrer ça derrière. Il y a dû y avoir d'autres choses après.
Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Je sais que j'ai toujours eu peur des ruptures.
C'est pas la rupture qui me fait peur, j'ai l'impression. C'est d'être seule.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est pas tout à fait la même chose.
Non.
C'est la solitude.
Oui. Et puis, mais finalement, c'est la peur de la solitude. Mais finalement, je la vis bien, en fait. Là, je suis seule chez moi et je la vis bien. Mais parce que j'ai encore ce fil entre nous, quoi. J'ai encore cette connexion.
Comme si vous aviez peur d'avancer toute seule dans la vie, d'être assez grande pour avancer toute seule.
Oui, c'est vrai. Comme s'il me fallait un fil, quoi, au-dessus de ma tête pour me guider, oui. Comme si, oui. Oui, c'est vrai, c'est ça.
Et ça, c'est très important de travailler là-dessus. Est-ce que vous avez déjà fait un travail quelconque avec une thérapeute, un thérapeute?
Oui. Mais je bloque toujours là, à ce moment-là. C'est que voilà, j'ai entièrement conscience de la situation, mais j'arrive pas à débloquer. J'arrive à débloquer là, ce moment-là où je devrais me décoincer, quoi. Je reste coincée.
Ouais. Intellectuellement, vous avez bien compris tout ça. De l'autre côté, c'est bloqué. Pour moi, le travail là-dessus, il n'est pas tellement à faire sur le lien avec lui. Il est à faire sur le fait de vous aider à grandir.
Oui.
À grandir suffisamment vous-même pour tenir debout toute seule et pas avoir besoin d'être attachée à qui que ce soit.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, parce que lui, bon, c'est tout. Il est comme il est. Voilà. Mais c'est moi maintenant qui doit progresser.
C'est que pour une raison ou pour une autre, et je ne vous connais pas évidemment assez pour mettre le doigt dessus comme ça, mais il y a une partie de vous qui est restée enfant.
Oui, exactement. Oui, ça je le dis, j'ai quand même 65 ans et il serait temps que je grandisse, quoi, que j'arrive comme ça à ne pas être téléguidée en fait, mais je sais tout, je sais me débrouiller dans la vie, j'ai pas de problème dans le quotidien, je sais.
Ah ça, j'en doute pas sur le plan matériel, j'en doute pas du tout. Sur le plan émotionnel, c'est plus compliqué. Vous avez encore besoin d'un doudou, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est là-dessus qu'il faudrait que vous trouviez quelqu'un pour travailler et avancer. Grandir suffisamment et avoir suffisamment d'estime en vous pour comprendre que vous n'avez pas besoin de gens, et surtout pas de gens comme lui. Parce que vous l'avez bien compris aussi, c'est un leurre. Ce lien qui soi-disant vous tient debout, c'est un leurre. C'est pas un lien qui vous porte, c'est un lien qui vous tire en arrière.
Oui.
Or, normalement, les liens que l'on choisit d'avoir avec les gens dans la vie, que ce soit nos amis, je parlais des amis tout à l'heure aussi, nos amis ou nos amours sont forcément des liens qui nous tirent vers l'avant. Sinon, c'est pas la peine. Hein. On n'a pas besoin de ça. Donc, je pense que l'essentiel pour vous maintenant, Annie, c'est de comprendre qu'il faut vraiment aller travailler avec un thérapeute sur la maturité d'une partie de vous qui... Alors après, voilà, ça serait une vraie thérapie à entamer pour comprendre à quel moment c'est resté coincé, pourquoi, et comment vous permettre de grandir et de développer suffisamment d'estime de vous-même pour ne plus vous mettre dans des situations comme ça. Parce que vous savez très bien que tant que ça ne sera pas résolu, vous recommencerez le même schéma, avec lui, avec un autre.
Oui, mais c'est quand même la première fois que je découvre... Je savais pas que ce genre d'homme existait, en fait.
Ah oui, ça, malheureusement, il y en a beaucoup.
C'est la première fois, oui. Mais oui, je découvre ça, et dans mon entourage, maintenant que je le vis, je découvre que beaucoup de personne le vivrait.
Mais je vous dis, allez sur cette page Facebook, Pervers Narcissique, comment les démasquer, c'est édifiant.
Oui.
C'est vraiment édifiant, toutes ces femmes qui racontent. Mais une fois de plus, peu importe quel est son comportement à lui, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi vous avez accepté ça jusqu'à maintenant et comment ne plus l'accepter, justement, en le vivant le mieux possible.
Oui, c'est ça maintenant. C'est comprendre pourquoi pourquoi je suis allée au bout du bout, comme ça, de la relation, jusqu'à devenir malade, en fait. Il était temps que je vive seule pour m'en sortir, quoi. Mais je ne suis pas vraiment seule, voilà. Je suis quand même avec lui, j'ai un lien avec lui. Et ça, voilà.
Et pourtant, allez-y.
Oui, ce lien, j'arrive pas à le rompre, j'arrive pas à le couper.
Et je pense qu'il doit être aussi assez doué pour ça, parce que vraiment, typiquement, la seule chose à faire avec les gens qui sont des manipulateurs pervers comme ça, c'est de couper vraiment les ponts. On ne s'en sort pas sur le côté moitié-moitié, un petit peu, mais pas complètement, ça ne marche pas, jamais.
Oui.
Ça, vraiment, il faut être très, très, très ferme là-dessus avec vous-même. Mais malheureusement, ils savent y faire aussi. Leur objectif, c'est de ne pas couper ce lien. Et c'est là qu'il faut que vous soyez assez forte pour comprendre qu'il n'y a pas de juste milieu avec des gens comme ça. La sortie, pour vous, elle passe d'abord par là. Et vraiment, en arrêtant de vous faire un film avec un filtre rose, de vous repasser vraiment le film de la réalité, et puis d'aller travailler pour grandir. Aider cette partie de vous qui se sent comme une petite fille qui a besoin comme ça tout le temps qu'on lui tienne la main, qu'on la rassure.
Oui, c'est exactement ça. Et le thérapeute, c'est un psychologue, quoi, c'est à force de parler.
Ça peut tout à fait être un psychologue, ça peut être aussi de l'hypnose, on en a beaucoup parlé hier soir.
Oui, on en a parlé, oui.
Vous savez,
ça peut être de l'hypnose.
Bien sûr, ça peut être de l'hypnose. À quel point notre cerveau est puissant.
Oui.
Je vous ai commencé à vous expliquer tout ça hier soir. À quel point, par la force de la pensée, on peut travailler sur beaucoup de choses.
Oui.
Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps hier soir de vous donner ça, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a deux conférences que je vous invite à aller voir sur Internet concernant l'hypnose. Une conférence de Kevin Finel qui s'appelle « Ça donnerait quoi si on prenait des cours de cerveau ?» Elle est vraiment passionnante. Kevin Finel, ça donnerait quoi si on prenait des cours de cerveau?
Bon, je ne vais pas le noter.
Vous écouterez le replay sur europe1.fr si vous voulez. Et il y a une autre conférence présentée par Anne Chervet, C-H-E-R-V-E-T, qui s'appelle tout simplement « Anne Chervet explique l'hypnose ». Ça fait partie des cycles des conférences TEDx. Et vraiment, que ce soit Kevin Finel avec son cours de cerveau ou Anne Chervet qui explique l'hypnose, si ça vous intéresse, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Sur comment
ça
fonctionne.
M'intéresse beaucoup.
Et sur vraiment le pouvoir qu'ont nos pensées pour créer de nouvelles connexions neuronales et créer des nouveaux comportements plus en phase avec ce qu'on veut vraiment. Et vous, c'est vraiment ça qu'il vous faut aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, là, je suis au point où, je suis persuadée que j'en suis là, oui.
Mais c'est déjà un bout de chemin fait, hein, Annie, l'air de rien.
Oui, c'est déjà, j'ai réussi à partir, à vivre chez moi, Oui, c'est ce qu'on me dit, j'ai fait le plus dur.
Et puis vous ne croyez pas que vous méritez mieux que ça dans la vie?
Si, je crois, oui.
D'ailleurs, on va même changer la formulation, arrêtez de le croire, soyez-en persuadés.
Oui.
Et dites-vous chaque matin, je mérite mieux, je mérite vraiment mieux que ça. Parce que quelquefois, et même, c'est très souvent le cas, quand on se sépare de quelqu'un, on passe par une étape où on renoue le lien avec soi-même. On se répare, on se reconstruit. Et après, celui qu'on rencontre ou celle qu'on rencontre est en phase avec la nouvelle soi, je dirais, pas celle qui est encore en chantier. Et comme par hasard, ça donne des histoires qui tiennent beaucoup mieux la route. Il ne faut pas que l'autre soit... comment vous dire ça ? C'est pas lui qui va vous apporter les solutions, si vous voulez. Les choses qu'il y a à réparer chez vous, la vie est en train de vous montrer que c'est à vous d'aller les réparer. Et parce que vous allez faire ça, le prochain que vous rencontrerez sera vraiment en phase avec vous-même, et pas avec l'ancienne vous, pas avec la petite vous qui a peur, qui se fait dominer, et qui accepte des choses qui sont inacceptables. Il sera en phase avec l'autre, la nouvelle vous, celle qui sera plus mûre, plus adulte et plus confiante, et donc il y aura une relation plus stable, plus équilibrée, et probablement beaucoup plus de bonheur au bout aussi.
Oui.
Oh, c'est joli, Rémi qui vous envoie un très joli message qui dit « Vous avez du courage, Annie, persistez même si vous êtes seule un moment. La chrysalide donnera un merveilleux papillon qui attirera un regard bienveillant.
Merci, oui, c'est une belle image, hein, la chrysalide. En plus, j'adore les papillons et les chrysalides. J'adore la nature. Et
alors, vous savez que pour que la chrysalide devienne papillon, il y a un effort à faire, il y a un travail.
Oui.
Ça ne se fait pas tout seul.
Oui.
Mais ça vaut tellement le coup.
Mmh. Ah oui, complètement. Mmh. Oui.
Je vais vous laisser maturer tout cela. Hein.
Oui, oui, oui. J'ai besoin d'entendre ça. Ouais. C'est bien de le formuler et de m'en persuader.
Je vous souhaite en tout cas de faire un beau chemin d'apprentissage et de devenir un magnifique papillon.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, Aline.
Merci. Oui, merci.
Et ma question pour mieux vous connaître ce soir était combien de vrais amis avez-vous ? Est-ce que c'est important pour vous l'amitié ? Et j'ai Rémi qui nous répond : j'en ai un seul et ça suffit. Je suis assez d'accord. Du moment que c'est un très bon ami, finalement, je crois que ça n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et puis Brigitte me dit : bonsoir Sabine, pour moi, c'est plutôt la relation amoureuse qui compte, qui est prioritaire. Les amis, c'est un plus. Et c'est Florence que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Florence.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, je vous écoute. Quel est votre... De quoi vous avez envie de parler ce soir ?
Je voulais vous parler de don d'organes.
Oui.
Je suis la maman d'une jeune fille qui a malheureusement été tuée dans un accident il y a bientôt 2 ans. Mmh. Elle n'a pas été tuée sur le coup. Elle a été plongée dans un coma d'emblée. Et 5 jours après cet accident et 5 jours après un coma profond, on nous a annoncé qu'elle se trouvait en état de mort encéphalique. Nous avons fait le choix avec son papa et avec ses frères et sœurs de donner ses organes. Et donc, grâce finalement au décès d'Alice, 6 personnes ont pu être greffées dans les heures qui ont suivi le prélèvement des organes de notre fille. Mmh. Après cette terrible histoire, j'ai beaucoup potassé le don d'organes. Je me suis beaucoup renseignée, même si la coordination des dons d'organes qui s'était occupée de nous au moment de l'accident de notre fille avait déjà répondu à moult questions. Et je me suis rendu compte, en fait, en potassant, que finalement, quoi qu'on fasse, il n'y aurait jamais assez d'organes pour le nombre de personnes qui en attendent. Simplement parce que sur 620 000 morts décès par an, toutes causes confondues, il y a à peu près 2000 décès seulement qui peuvent donner lieu aux dons d'organes. Pour pouvoir prélever des organes, il faut être décédé dans des conditions très particulières, en général assez violentes, puisqu'il faut dans la plupart des cas se retrouver en état de mort encéphalique.
Ouais.
Voilà. Donc il faut un choc, soit un traumatisme crânien extrêmement grave, soit... un AVC invasif massif, mais bon, ce sont des conditions de décès assez violentes, assez subites. Donc la famille se retrouve dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se faire à l'idée, pour autant qu'on puisse se faire à l'idée de la mort d'un proche.
Bien sûr.
Mais ce qui fait qu'effectivement, 30% des personnes qui pourraient dire oui au don d'organes, en fait, le refusent. Et 30% sur 1900, sur le peu de donneurs possibles, c'est colossal. Alors je me suis dit qu'il y avait plusieurs moyens de faire avancer un peu le schmilblick. Évidemment, la science fait largement sa part, hein, puisque les médecins, les scientifiques travaillent au meilleur repérage des morts encéphaliques, travaillent à des techniques de réanimation qui permettent de maintenir les organes dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent être prélevés, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de communication, même si l'Agence de la biomédecine communique déjà beaucoup. Je pense qu'on peut éveiller quand même un minimum les consciences en communiquant davantage. C'est moi ce que je me suis employée à faire en publiant un livre l'an dernier, en novembre dernier, sur ce sujet. Et j'ai à cœur d'en parler parce que je me suis rendu compte en discutant avec mes proches, avec nos amis, etc., qu'il y avait énormément de tabous autour du don d'organes.
C'est encore plus tabou que la mort comme sujet, ça.
C'est un sujet qui dérange,
ouais.
C'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet pour lequel il y a énormément de confusion entre don d'organes et don du corps à la science. Je m'en aperçois régulièrement. Régulièrement, on me dit « Mais comment tu as pu faire don du corps de ta fille à la science ?» Mais je n'ai pas fait don du corps de ma fille à la science.
Ça n'a rien à voir.
Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis surtout, une grande ignorance du sujet, en fait, de ce que c'est, de la manière dont ça se passe. Et donc, j'ai décrit dans ce livre, sans tabou, aucun, comment une famille, et je crois que j'étais la mieux placée pour en parler finalement, comment une famille qui est confrontée un jour à la mort brutale d'un proche est prise en charge par la coordination des dons d'organes et peut, sans beaucoup d'efforts, dire oui. Parce que finalement, donner les organes d'un proche, ça ne demande pas d'efforts, si ce n'est de dire oui. Voilà, ça ne demande rien d'autre. Je me suis rendu compte également, et je communique beaucoup autour de ça, sur le fait que le don d'organes ne m'a rien enlevé de plus. Le don d'organes n'a pas ajouté à mon chagrin. Et que tout ce qui est difficile, finalement, dans cette histoire, c'est la perte du proche. C'est pas le don en lui-même.
Oui.
La personne dont on prélève les organes est évidemment décédée. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Alors, on va en parler plus en détail, si vous le permettez, Florence. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant et je vous suis extrêmement reconnaissante d'avoir le courage d'appeler pour en parler ce soir, parce que c'est assez rare. Et je trouve ça assez formidable. Est-ce que vous voulez bien me raconter déjà avant, dans votre famille, est-ce que c'est un sujet dont vous parliez, par exemple, entre vous ?
Alors, pas du tout.
Eh oui, comme
pas du tout. C'est un sujet dont on n'avait jamais parlé. Le fait est que quelques mois avant l'accident de notre fille, sa petite sœur, qui était âgée alors de 10 ans, a, elle, abordé le sujet comme ça, au cours d'un déjeuner, en nous disant « Enfin, quand même, c'est affreux, il y a des gens, on les tue pour prendre leurs organes. » On a tout de suite rétabli la vérité, ça a fait beaucoup rire sa sœur aînée, qui elle-même s'est empressée de lui dire « Mais ça ne se passe pas comme ça, ces gens sont déjà morts, et comme ils sont morts, ils n'ont plus besoin des organes qui sont encore, eux, en bon état, et donc on peut les proposer à des gens malades. » Pour qu'eux aillent mieux.
Elle savait tout ça du haut de ses 16 ans.
Ouais, elle savait ça.
Comment s'appelait votre fille ? On va peut-être te donner un prénom.
Alice.
Alice, d'accord. Alice. Donc, Alice, elle savait déjà tout ça du haut de ses 16 ans.
Ouais, c'est Alice, surprenant. Elle savait ça. Ouais, elle savait ça parce que Alice est une jeune fille qui a souffert d'un handicap. En fait, elle est née avec une tumeur au cerveau, donc son parcours de vie est quand même assez, assez hors norme.
Ouais.
Voilà. Et donc, elle a grandi dans une école qui accueillait des enfants en situation de handicap moteur et psychomoteur, et dans une école dans laquelle tous ces sujets qui touchent à la maladie, qui touchent à la mort, qui touchent au handicap, sont évidemment abordés sans tabou avec tous ces enfants qui souffrent même de handicap et qui passent une partie de leur vie dans des hôpitaux divers et variés. Et donc, pour elle, c'était très banal, finalement. Donc, elle a dit ça comme ça à sa sœur. Mais comme les enfants ne nous ont pas posé la question à ce moment-là de nous dire « Et vous, du coup, si ça vous arrive, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on n'a pas répondu à la question. La question qui ne se pose pas, on n'y répond pas.
Mmh. Donc vous êtes passé à autre chose.
Donc on est passé à autre chose et on a continué notre déjeuner joyeusement. Et puis voilà. Et on était évidemment très très loin de s'imaginer que quelques mois plus tard, on serait confronté à cette question.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Alice d'ailleurs ?
Alice, elle a été victime d'un accident d'équitation. Elle a reçu un coup de pied de cheval dans la tempe.
Oh, ouais.
Voilà. Le cheval n'est pas pour grand-chose, elle non plus. C'est le mauvais moment au mauvais endroit. Le pur accident. C'est-à-dire, le cheval est tombé à côté d'elle, elle s'est baissée pour ramasser sa longe et il s'est relevé au même moment, elle a pris le coup de pied.
C'est la faute à personne. Vraiment, ouais.
Faute de personne, aucun coupable, aucune... Pas de colère non plus envers qui que ce soit de notre part. Mais donc, elle a donc été plongée dans ce coma d'emblée. Et on s'est retrouvés avec son papa, tous les deux à Necker, dans une salle d'attente, pendant qu'Alice était en salle de déchoquage et qu'on attendait des nouvelles du médecin. Et puis, quand le médecin nous a expliqué que les choses étaient très graves et qu'Alice était dans un état très, très grave, que son pronostic vital était très engagé et qu'on allait devoir l'opérer, il nous a laissé avec ça. Attendre que l'opération se passe. Et pendant ce temps-là, en quelques secondes, on s'est dit, mais si on nous annonce que son cerveau ne fonctionne plus, qu'elle est en état de mort encéphalique, qu'est-ce qu'on fait ? Mon mari m'a regardée, m'a dit « qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse ?» Et je lui ai dit « j'en sais rien, mais au moins on donne son cœur, quoi. La vie ne peut pas s'arrêter comme ça. »
Vous pensiez déjà au don d'organes avant qu'on vienne vous le demander ?
Oui, oui.
Ça vous est revenu à l'esprit tout de suite, ça ?
Oui, on y a pensé avant que la question se pose.
Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là, alors ? Ça va dans tous les sens ou c'est assez posé, finalement, assez
évident ? Non, c'est très posé. Ouais. C'est très posé, on est très calmes tous les deux. Alors, on est évidemment effondrés. Et en même temps, assez calme, on n'est que tous les deux, c'est le soir, il est assez tard, et très posément, je dis à mon mari, moi j'aimerais qu'on donne au moins son cœur, parce que pour moi, la vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Et il me dit, d'accord, voilà. Et on n'en parle plus, le sujet est clos, la question est éludée, elle est éludée pour les 5 jours qui viennent. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans les jours qui vont suivre, en fait, on ne repense à cette question-là. Mmh. Et on ne la réaborde et on ne réenvisage le décès possible de notre enfant, en fait. À aucun moment. C'est finalement lorsque le médecin nous annonce que Alice ne se réveillera pas, que là, tout de suite, on lui dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire un don d'organe. Et là, il nous explique que pour faire don d'organe, il faut qu'elle soit en état de mort encéphalique, que pour le moment, elle est végétative, mais elle n'est pas décédée. Et finalement, le lendemain, lorsqu'on arrive à l'hôpital, on nous annonce que les choses ont changé et que Alice... est manifestement décédée et que des examens sont en cours pour prouver la mort encéphalique. C'est un processus qui prend un peu de temps pour déclarer quelqu'un en état de mort encéphalique. Il y a des examens médicaux et notamment des électroencéphalogrammes à plusieurs heures d'intervalle interprétés par différents médecins, puisqu'il faut prouver qu'il n'y a plus aucune activité électrique dans le cerveau ni plus aucune vascularisation du cerveau, donc ça prend du temps. Mais à partir du moment où on nous a eu annoncé ça, la question pour nous, elle avait été tranchée 5 jours avant, donc on n'est pas revenu dessus, quoi.
Est-ce qu'ils sont venus vous voir tout de suite pour vous expliquer un peu comment les choses allaient se passer ?
On est venu nous voir dans la soirée, effectivement, après que les examens aient été faits, en attendant les diagnostics. Et là, on a été reçus par la coordination des dons d'organes. Et très vite, on nous a dit qu'on leur avait fait gagner beaucoup de temps.
Et c'est ça, oui, c'est ce que je me disais. Par contre, à ce moment-là, pour vous, dans votre esprit, c'est toujours juste le cœur ?
À ce moment-là, moi, j'ai pas d'idée, en fait. J'ai pas d'idée. Bon, il faut savoir qu'on donne ce qu'on veut. On se rétracte à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut, au bout d'un moment, dire non, stop, finalement, je suis plus d'accord, je veux plus. Enfin, voilà, il n'y a pas de... on ne nous force pas la main, évidemment.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, on vous explique très concrètement comment les choses vont se passer ?
Oui.
C'est important pour des parents, ça doit être quand même crucial, ces questions-là.
On nous explique, la première chose qu'on nous dit, c'est que l'on va répondre à toutes nos questions et qu'il n'y a aucune question taboue. Et donc là, on comprend que même les questions les plus trash, si j'ose dire, on a le droit de les poser, quelqu'un va nous répondre. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et on nous explique aussi que toutes les questions qui se posent ce soir, d'autres se posent. Poseront peut-être dans la nuit, d'autres se poseront peut-être demain matin, et il sera encore temps d'y répondre.
Florence, pardonnez-moi, on va devoir laisser la place aux informations.
Je vous en prie.
Si vous le permettez, on va reprendre bien sûr cette conversation dans quelques minutes.
Sans problème.
Merci de votre patience. On se retrouve dans un instant, juste après les infos.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Donc pour la suite et la fin de cette libre antenne, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous souhaitez prendre la parole à n'importe quel moment. Vous faites le 3921, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime. 3921 donc pour le téléphone, 73921 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Vos SMS pour donner un avis, apporter un soutien ou demander à être mise en relation avec quelqu'un qui vous a par exemple particulièrement touché. 73921 et vous commencez bien par le mot nuit. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, Libre Antenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Notez que les mails sont pratiques aussi si vous souhaitez vous inscrire pour un autre soir, par exemple pour demain. Mettez bien votre nom, votre téléphone et le sujet que vous aimeriez aborder.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et on retrouve Florence. Florence, vous êtes là ?
Oui.
Alors vous nous avez appelé ce soir, Florence, pour nous parler de la mort d'Alice, votre fille, et surtout de votre décision à votre mari et vous de donner ses organes. Et juste avant les infos, vous me parlez de l'équipe qui s'est occupée de ça en me disant qu'ils vous ont beaucoup entouré, qu'il n'y avait pas de pression du tout, me disiez-vous.
Aucune pression. C'est-à-dire que le fait est que nous, on a fait gagner beaucoup de temps parce qu'on avait été les premiers à aborder le sujet avant que la question ne se pose et qu'on en avait fait part au médecin réanimateur chef du service qui nous avait annoncé qu'Alice ne se réveillerait pas. Mmh. Et ça, c'était environ 24 heures avant le décès d'Alice. Mais du coup, ça a été consigné dans les notes du dossier médical d'Alice. Et lorsque, dans la nuit qui a suivi, ils ont constaté les premiers signes de mort encéphalique, ils ont tout de suite alerté la coordination des dons d'organes qui a pu très très vite se mettre au travail pour remplir le fameux dossier cristal qui anonymise le dossier du patient donneur et le dossier du patient receveur. Mmh. Et dans lequel finalement on rentre tout ce qui concerne le patient, son poids, sa taille, son âge. Ensuite, il y a des examens qui sont faits, des échographies qui sont faites pour étudier les organes qui pourraient éventuellement être proposés. Et tout ça prend du temps. Donc, de fait, le fait que nous ayons abordé le sujet les premiers leur a fait gagner du temps.
Et ça a facilité beaucoup les choses, bien sûr.
Ça leur a beaucoup facilité les choses, mais en même temps, on nous a aussi expliqué que notre décision, elle n'était pas. Enfin, on pouvait revenir dessus à tout moment. On nous a aussi expliqué qu'il n'y avait aucun sujet ni aucune question taboue dans toutes celles qu'on pourrait avoir à poser, bien qu'on était quand même un peu sidérés par ce qui était en train de se produire. Et effectivement, ils ont répondu à toutes nos questions et c'était très étonnant parce que mes maris, évidemment, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière dans ces cas-là. Et mon mari, lui, avait besoin d'énormément de détails, techniques sur la manière dont ça allait se passer, comment se déroulait l'opération, qu'est-ce qu'on pouvait prélever, combien de temps durait l'opération, comment ça se passait pour les receveurs à l'autre bout de la chaîne, etc. Et toutes ces questions-là ont eu des réponses ce soir même là.
Et vous, vos questions à vous, c'était plutôt quoi ?
Alors moi, j'avais pas de questions. Moi, j'avais pris la décision. Je ne voulais à ce moment-là pas savoir ce qui serait prélevé. Je n'émettais pas non plus de restrictions parce qu'on peut dire, je ne veux pas donner le cœur ou je ne veux pas donner le foie. Enfin voilà, on peut évidemment choisir l'organe qu'on veut donner. Moi, j'avais pas de choix à faire, mais je voulais pas savoir. À ce moment-là, je n'avais pas besoin et je n'avais pas envie de savoir.
Est-ce que c'est une décision à ce moment-là, justement, dont vous avez parlé à votre autre fille, à sa petite sœur ?
Alors, on en a parlé avec elle le lendemain, puisque le lendemain, Camille a voulu voir sa sœur. En fait, le soir, quand on est rentré à la maison, il lui a expliqué qu'elle ne se réveillerait pas. Elle a demandé si elle pourrait venir voir sa sœur à l'hôpital, et évidemment, c'était possible. Et un de ses frères était avec nous encore, puisque ses deux grands frères sont étudiants, n'habitent plus à la maison, sont étudiants en province. Et l'un des deux avait pu rester pour la semaine. Donc les deux ont demandé à voir Alice. Donc Camille a d'abord été reçue par la psychologue du service avant de voir sa sœur. Puis elle a été accompagnée dans la chambre par la psychologue et par l'anesthésiste et par nous. Et l'anesthésiste et la psychologue lui ont donc expliqué à quoi servaient tous les appareils qu'elle voyait autour de sa sœur. Il n'y avait absolument rien de choquant puisque la blessure ne se voyait pas, elle était cachée par un pansement et que le visage d'Alice était intact. Donc,
rien de traumatisant.
Rien de traumatisant, en tout cas visuellement pour elle, mais quand même, Alice était maintenue en respiration artificielle, de fait. Puisque pour pouvoir prélever les organes, il faut que ceci soit oxygéné régulièrement. En fait, le cas d'Alice est assez particulier. Ça s'appelle une mort à cœur battant. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui décède et le cœur continue, lui, à battre parce qu'il est oxygéné. Le cœur continue à battre, oui, parce qu'il est oxygéné. Et quand on est sorti de cette pièce, Camille me dit : mais maman, quand même, à quoi ça sert de garder son cœur, en fait ? Pourquoi on continue à faire battre son cœur, du coup, puisque Alice est décédée ? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va en faire de son cœur ? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on en fasse? Et elle m'a regardée, elle m'a dit, maman, est-ce qu'un cœur, ça se donne? Et je lui ai dit, ben oui, un cœur, ça se donne. Et justement, si on maintient le cœur de ta sœur en train de battre grâce à la respiration, à la réanimation artificielle, c'est parce qu'on est en train de faire des examens et en train de chercher quelqu'un, quelque part, qui pourrait avoir besoin d'un cœur tout neuf, en bonne santé. Et ça, je pense qu'elle a été rassurée qu'on lui dise la vérité. Puisque son grand frère était là, on lui a posé la question également. Bon, il est beaucoup plus grand, hein, il avait 22 ans au moment où sa sœur est décédée. Donc, il nous a dit, évidemment, il n'y a que ça à faire, c'est la meilleure des choses à faire, ne vous prenez pas la tête, réfléchissez pas mille ans, bien sûr que vous avez raison de faire ça. Et puis, donc, on a téléphoné au deuxième grand frère qui, lui, était rentré dans son université et on lui a posé la même question. Et donc, on était tous les cinq complètement d'accord sur le sujet.
Est-ce qu'à ce moment-là, on vous parle des receveurs ou jamais?
On ne nous parle pas des receveurs puisque donc, le don d'organes est gratuit, anonyme. On ne nous parle pas des receveurs. En revanche, on nous dit tout de suite que, bien sûr, on pourra avoir des nouvelles des receveurs. On pourra les demander à l'Agence de la biomédecine. Donc, on ne saura jamais qui c'est, quel est leur âge, où ils habitent, quelle a été leur vie, de quelle pathologie ils souffraient, pourquoi avaient-ils besoin d'un organe. Ça, on ne saura pas. Mais ça m'importe peu, en fait. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui m'a beaucoup importé au début et un peu moins maintenant, c'est de savoir qu'ils allaient bien. En fait, que la greffe avait fonctionné. Ça, pour moi, ça a été important. Et ça, on l'a su la semaine qui a suivi, en fait, une fois que les transplantations ont été faites et que les gens n'étaient plus en réanimation. On nous a effectivement donné des nouvelles en nous disant, les six transplantations se sont bien déroulées, les patients vont bien. Et j'ai, la première année, demandé des nouvelles de temps en temps. Là, ça fait un moment que j'en ai pas reprise, mais aujourd'hui, je crois que voilà, je suis rassurée de savoir que ces gens vont bien. Et puis après, leur vie leur appartient. C'est-à-dire que nous, on a juste donné un outil fantastique, tout neuf, pas usé, pas abîmé par la vie, pas abîmé par la consommation d'alcool ou de tabac. Des outils qui provenaient d'une jeune fille qui était en pleine santé et qui avait une très belle hygiène de vie. Ce qu'ils en font, ça leur appartient, ça leur regarde, la manière dont ils guérissent. Leur envie de se battre, leur envie de vivre, les projets qu'ils ont envie de faire, ça leur appartient, c'est pas ma vie.
Mais est-ce que vous avez l'impression que votre fille vit encore finalement à travers ces gens-là?
Alors moi non, pas du tout, mais je sais que certaines familles de donneurs ont cette impression-là. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Je suis complètement sereine par rapport au décès de ma fille. C'est-à-dire que c'était un accident, j'ai personne à blâmer, j'ai pas de colère. J'ai personne à qui en vouloir, c'est comme ça, c'est tragique, mais c'est comme ça. Mais je n'ai pas du tout l'impression qu'elle continue à vivre à travers eux. En revanche, à chaque fois, je rencontre des receveurs en pleine force. J'ai rencontré des receveurs qui courent des marathons, des receveurs qui ont des tas de projets, des gens qui ont été transplantés cardiaques ou transplantés des poumons et qui vont admirablement bien et qui ont repris une vie pleine de vie, justement, ce dont ils étaient empêchés auparavant, qui parfois ont pu avoir des enfants après, etc., enfin, qui se sont reconstruits. Et ben, je me dis qu'on a bien fait, qu'on a vraiment bien fait. Parce que pour Alice, de toute façon, rien de plus ne pouvait être fait. Et ne pas donner ses organes n'aurait rien changé au fait qu'elle était décédée, de toute façon.
Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de venir parler à des parents qui seraient dans cette situation et qui seraient indécis ou éventuellement, qu'est-ce que vous leur diriez à des gens qui traverseraient cette épreuve-là?
Je leur dirais qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit qui aurait une idée très tranchée. Et d'ailleurs, c'était ce qu'un médecin réanimateur m'avait dit. Il m'avait dit y a trois types de personnes. Il y a ceux qui savent. Dans ceux qui savent, il y a ceux pour lesquels c'est oui et c'est oui et c'est votre cas. Et voilà, et dans ces cas-là, on gagne du temps. Il y a ceux pour lesquels c'est non. Et ceux pour lesquels c'est non, on ne parviendra pas à les faire changer d'avis. On le sait, et en tout cas, ce n'est pas au moment du décès, au moment où on se retrouve dans une situation tragique, violente, qu'on est à même de changer d'avis sur quelque chose qu'on a très ancré en soi. Puis il y a ceux qui ne savent pas. Et moi, c'est surtout aux indécis que je m'adresse finalement. C'est de leur dire, décidez-vous maintenant, que ce soit oui ou non, mais décidez-vous tant que la question ne se pose pas. Parce qu'au moment où la question se pose, on est rarement, je ne sais pas nous ce qui a fait qu'on a été en... Je suis incapable d'expliquer comment on a été en mesure de prendre une telle décision dans un moment aussi grave. Mais je pense que dans la plupart des cas, justement, c'est très difficile de prendre une décision éclairée quand on se retrouve en état de sidération face à la mort tragique de quelqu'un. Et ce que j'ai toujours dit à mes amis, posez-vous la question pour vous, peu importe la réponse, que ce soit oui ou non, mais soyez au clair avec vous-même, avec votre conscience et avec les raisons qui animent cette décision. Et puis posez-vous la question malheureusement aussi pour vos enfants. Parce que le fait est que ça n'arrive pas qu'aux autres, on en est la preuve vivante. Et qu'au moment où le drame survient sur un enfant, la vie des deux parents est recueillie et les deux parents doivent signer un accord de prélèvement. Donc il faut que les deux soient d'accord. De fait. Et c'est vrai que si je devais m'adresser aujourd'hui à des parents ou à des gens qui ne savent pas, pour moi, le plus important, c'est qu'ils y réfléchissent. Maintenant, tant que tout va bien, parce que je me dis que nous, ce qui a sauvé notre décision, c'est qu'on se pose la question, finalement, ok, dans un moment tragique, mais à un moment où l'hypothèse de la mort d'Alice n'était pas encore envisagée.
Quelques jours avant, oui. Ouais. Et au sein de votre famille, comment ça t'est pris tout ça, les grands-parents, les tantes, tous ces gens-là?
Alors,
ça a posé un problème ou pas?
Ça n'a pas posé de problème. Je crois que ma belle-mère a été un peu choquée au moment où on lui a annoncé, il faut dire à sa décharge qu'on lui a annoncé, c'est la personne avec laquelle j'avais le plus de mal à en parler, parce que c'est évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas la relation que je peux avoir avec mes parents... avec lesquels je peux parler en toute franchise, sans tabou. Donc la décision, on l'a imposée à nos parents en leur disant on va faire don des organes d'Alice. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Après, à ce moment-là, moi je me suis entendue dire parfois, après c'est votre conscience à vous, débrouillez-vous avec elle, moi je ne peux pas porter tout ça. Voilà, je suis désolée, je vous impose votre décision, mais il n'y aura pas de tabou autour de ce sujet, je ne veux pas qu'il y en ait. Je ne veux pas que les enfants découvrent par hasard, à un moment donné, dans une discussion dans 20 ans, que finalement, les organes d'Alice ont été donnés. Je voulais que les choses soient claires dès le départ, parce que le sujet est déjà tellement douloureux, ce n'était pas la peine non plus qu'on aille s'embarquer dans des demi-mensonges ou des choses à moitié dites, etc. Donc, les choses ont été très claires de mon côté. J'ai dit tout de suite les choses à mes parents, et voilà. À mes parents, à ma sœur, qui elle-même en a parlé à ses enfants, qui étaient un peu plus grands qu'Alice. Mais bon, voilà, on a imposé ça. Et puis à ma belle-mère, en fait, je lui ai annoncé, alors qu'on partait pour la mise en bière. Donc on était en voiture et c'est le seul moment que j'ai trouvé, en fait. Pour moi, je ne pouvais pas, il n'était pas possible que je la laisse aller à l'enterrement de sa petite fille sans qu'elle sache.
Comment se fait-il que votre mari ne lui ait pas dit avant?
Je l'ignore. Peut-être par pudeur, par tristesse, pudeur, tristesse, probablement. Enfin, en tout cas, je ne le juge pas, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on allait à la mise en bière d'Alice et là, je me suis dit, il faut qu'elle le sache avant l'enterrement parce que je ne peux pas la laisser dans l'ignorance alors que tout le monde autour de nous sait et qu'on va retrouver à l'enterrement des dizaines et des dizaines de personnes qui le savent. Elle ne peut pas être la seule à ne pas savoir, ce n'est pas possible. Et donc, je le lui ai dit. Vous savez, on a donné les organes d'Alice. Sa première réaction était de me dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Et je lui ai dit, mais vous savez, on l'a fait pour sauver des vies. On l'a fait parce qu'Alice était une enfant généreuse. Et on l'a fait parce qu'Alice était décédée aussi. Et que ne pas le faire ne changeait rien au fait qu'Alice était décédée. Et bon, voilà, je l'ai laissé là-dessus, et puis nous sommes allés à la mise en bière, et en revenant pour aller à l'animation, finalement, en remontant dans la voiture, je pense que, donc, du coup, elle a vu sa petite fille, elle a vu que rien ne se voyait, et finalement, au retour dans la voiture, elle m'a dit « vous avez bien fait ».
Oui.
Voilà, donc je pense qu'elle avait compris, et ça aussi, c'est un message important, c'est de bien comprendre que prélever les organes consiste en une intervention chirurgicale extrêmement maîtrisée.
Et propre.
Qui est très propre, réalisée par des chirurgiens experts qui prêtent une grande attention au corps qu'ils ont entre les mains.
Oui, c'est vrai, parce que c'est important ce que vous dites là. Pardon de vous couper, mais parce qu'il peut y avoir quelque chose du domaine du fantasme là-dedans.
Oui,
on peut imaginer des choses horribles.
La profanation du corps.
Exactement, bien sûr.
Oui, on profane le corps des morts. Enfin voilà, on leur prend des bouts comme ça, mais bien sûr, moi j'ai entendu tout ça. Et ben en fait, pas du tout. Nous, on a retrouvé notre fille intacte dans l'état dans lequel on l'avait confiée, mais décédée. Voilà, mais on l'avait confiée décédée déjà. Donc,
effectivement, ça n'a rien changé.
Ça n'avait rien. Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Si ce n'est qu'on l'a confiée décédée à cœur battant, donc réanimée, enfin en cours de réanimation artificielle, donc. Ventilée avec une respiration qui n'est pas naturelle, mais une respiration et une peau chaude, et qu'on l'a récupérée, décédée, dégagée de respirateurs artificiels et des perfusions qui la maintenaient, enfin qui maintenaient ses organes, parce qu'elle, pour le coup, elle était déjà partie. Mais, donc évidemment, on a récupéré un corps défunt cette fois, vraiment défunt, avec l'image de la mort qui se ressemble. Ce qui est surprenant dans la mort encéphalique, c'est que la mort ne se ressemble pas, enfin en tout cas, elle ne ressemble pas à l'image que l'on en a. Quand on l'a eu récupéré après le prélèvement, de fait, la mort se ressemblait. Ça, il n'y a pas plus de doute. Plus de doute là-dessus.
Oui.
Mais il n'y a pas de profanation du corps, effectivement. Elle n'était pas abîmée du tout.
Et quel est votre rapport, vous, avec la mort? Qu'est-ce que vous pensez de la suite? Si suite il y a?
Écoutez, je ne sais pas si suite il y a. Je pense qu'Alice repose quelque part où elle est bien, en fait. Je la sens. Enfin, je me dis toujours qu'elle doit être sereine là où elle est parce qu'elle a accompli ce pourquoi elle était venue. Vous savez, Alice, donc je vous ai dit au début, elle était née avec une tumeur au cerveau. Elle a été opérée. À ce moment-là, elle avait 3 mois et les médecins ne donnaient pas bien cher de sa vie. Vous avez dit, vous savez, ça va être compliqué. Grosse tumeur au cerveau, on lui a enlevé tout le lobe temporal gauche. Voilà, elle va rester un très fort handicap. Un handicap de quelle nature, on l'ignorait. Et puis en fait, la vie nous a montré que Alice a surmonté la plupart des handicaps. Elle souffrait d'un handicap psychomoteur, finalement, pas si invasif que ça. Elle allait très bien, elle montait à cheval, elle faisait du sport. Elle avait une lenteur dans l'exécution de certaines tâches. Mais bon, voilà, c'était un handicap qu'elle parvenait à surmonter avec beaucoup de rééducation. Et toujours, je me suis dit que cet enfant n'était pas là par hasard. Toujours. Je me suis toujours dit, c'est fou comme elle s'accroche à la vie de cette enfant. Et c'est fou comme elle a vu une joie de vivre incroyable. Et je me suis toujours dit qu'elle n'était pas là par hasard. Alors, est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'avais raison? Je ne le saurais jamais. Le fait est qu'elle est décédée très jeune, pour notre plus grand malheur, mais qu'elle a fini par donner ses organes.
Et c'est elle qui vous a donné cette force aussi?
Ah oui, mais ça, j'en suis convaincue.
Oui, c'est une évidence.
Ah oui, mais ça, j'en suis convaincue. Ça, je le sais et je le disais d'ailleurs. Je disais que c'est souvent je disais c'est grâce à toi qu'on se marre autant et c'est grâce à toi que je me sens si armée finalement. Elle ne reculait devant rien.
Oui. Ce livre, Florence, vous l'avez écrit combien de temps après son décès?
J'ai commencé à l'écrire 3 mois après son décès. J'ai commencé à l'écrire en janvier.
Il est publié?
Oui, il est publié chez City Edition, ça s'appelle Le Don d'Alice.
Le Don d'Alice, voilà, c'est ce que je voulais vous demander.
Voilà, Le Don d'Alice chez City Edition. C'est un livre que j'ai coécrit avec un ami qui est journaliste, parce qu'à un moment donné, j'écrivais, et puis je me disais, j'aurais jamais le courage d'aller au bout. Et donc, j'ai appelé cet ami, Frédéric Veil, qui lui-même est journaliste et qui a écrit plusieurs ouvrages, en disant, j'ai besoin d'un coach. J'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser à aller au bout, parce que moi, des fois, tu sais, j'ai vraiment envie de tout envoyer balader et je me dis que je n'y arriverai jamais. Il m'a dit, t'inquiète pas, tous les jours, je te demanderai combien de pages t'as écrit et on va travailler ensemble et tu vas y arriver. Et donc, on a travaillé ensemble, il m'a beaucoup interviewé, il a écrit une partie, j'en ai écrit une autre. On s'est relus mutuellement et ça a été un travail extrêmement plaisant, extrêmement réparateur aussi pour tout le monde.
Oui.
Pour moi, la première, parce qu'après le décès d'Alice, je m'astreignais à un exercice fastidieux et chronophage qui était de me souvenir de toute l'histoire du début à la fin chaque matin avant d'entamer ma journée, de peur d'oublier cette affreuse semaine, parce que même si elle est affreuse, j'ai pas envie de l'oublier. Et je me suis dit que si je l'écrivais, ben j'aurais plus peur de l'oublier puisque l'histoire elle serait posée sur mon étagère.
Oui.
Et puis après, je l'ai écrit aussi pour nos enfants, parce que Camille avait 10 ans au moment de l'accident de sa sœur. Et je me suis dit, peut-être qu'en grandissant, elle va oublier une partie de l'histoire et peut-être qu'elle aura besoin, à un moment donné, de la retrouver pour la partager avec ses amis, avec son futur amoureux peut-être. Et puis, j'espère, peut-être aussi avec ses enfants, j'en sais rien, mais en tout cas, pour pas que l'histoire soit travestie avec le temps, avec la mémoire de chacun qui fait son œuvre, je me suis dit qu'écrire était aussi un service que je rendais aux enfants, finalement. Que si eux n'avaient pas envie de raconter l'histoire, mais que leur conjoint avait envie de la connaître, eh ben, il suffirait qu'ils lisent le livre. Voilà. Ça simplifierait la vie de tout le monde. Et comme il n'y a pas de tabou et que c'est notre histoire et la leur, voilà, il n'y a rien à inventer autour, quoi. Il n'y a rien à... Et donc, voilà, donc on a publié ce livre et voilà, tout le monde était très content, finalement, de ce projet.
Le
don nous a aidé à repartir.
Le don d'Alice, publié chez City Éditions.
Oui, c'est ça.
Il y a énormément de messages, bien évidemment, de soutien pour vous, Florence. Et je crois que le plus beau, c'est Lisa qui dit « Quelle belle leçon d'humilité ». C'est moi qui ai rajouté l'humanité, parce que c'est vraiment ce que je ressens vous écoutant depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça. Quelle belle leçon d'humanité aussi.
Écoutez, cette histoire, en tout cas, m'a appris qu'il faut rester effectivement très humble devant la vie. Très, très humble, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve, du meilleur au pire. Je sais aussi aujourd'hui que la vie reste belle, en dépit de ce drame. Tout est question d'éclairage, tout est question de la manière dont on la regarde, tout est question de la manière dont on accepte de continuer à la voir belle après avoir vécu un drame pareil. Et si c'est possible pour moi, je pense que c'est possible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés de ce type. Le don d'organes aide.
Je suis persuadée que votre témoignage va nous faire réfléchir. On va être nombreux à réfléchir à tout ça après vous avoir entendu.
Ben, pensez-vous, vraiment. Prenez cette décision pour vous déjà et puis faites-la connaître à vos proches, évidemment, parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mais moi, je suis déjà inscrit, voilà, j'ai déjà ma carte de donneur. » Alors, il n'y a plus de carte
c'est
de donneur.
C'est plus la peine, non, monsieur, maintenant.
Voilà, on est tous donneurs.
De fait, on est tous
donneurs,
sauf si on s'y oppose.
Voilà, sauf si on s'y oppose. Mmh. Mais la meilleure manière de parvenir à être donneur, si les conditions du décès le permettent, c'est encore de le faire savoir aux proches.
Bien sûr.
Voilà, qui seront interrogés au moment du décès. Voilà, on leur posera la question. Donc, il faut leur simplifier la vie en leur disant quelle est votre décision. Que eux n'aient pas à prendre une décision pour vous qui serait trop lourde pour eux à porter après.
Merci mille fois, Florence, pour ce témoignage.
Merci. Merci à vous.
Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Nous allons faire maintenant la connaissance de Didier. Bonsoir à vous, Didier.
Bonsoir, Sabine.
Bonsoir ou bonjour, je ne sais quelle heure est-il chez vous ?
Il est 15h34.
Et où êtes-vous ?
Je vous appelle de loin, je vous appelle depuis le Mexique, plus précisément de la ville de Mexico.
Oui.
Donc, désolé si en français n'est pas aussi, aussi fluide que ça, mais en fait, moi, je ne suis pas français ni franco-mexicain, je suis tout simplement mexicain.
Vous parlez parfaitement, en tout cas, bravo.
Ah, merci.
Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à nous, Didier ?
Bon, avant tout, j'aimerais bien donner un message de soutien au témoignage de Florence. Oui. C'est vrai que perdre un fils à cet âge, à 22 ans, ce n'est pas si facile que ça. Mais bon, en tout cas... la grève d'organes permet, si vous me permettez, de faire vivre une toute petite partie d'elle dans une autre personne qui a beaucoup de besoin de ces organes-là.
Bien sûr. C'était le sens du témoignage de Florence ce soir.
Oui. Donc, mon appel, c'est plutôt un autre sujet. J'aimerais bien parler un peu sur ma situation heureuse et principalement sur ma dernière relation, qui était en fait aussi ma toute première relation, ma toute première histoire d'amour. C'était en fait... elle a fini en fait il y a deux mois, à peu près.
Oui.
Et du coup, ça s'est en fait mal passé la fin de cette relation. Et c'était en fait avec une personne que j'aimais très très fort et que j'avais un sentiment très très fort pour elle. Et maintenant, c'est vrai que c'est pas si facile que ça de digérer ou de compter cette situation.
Quel âge avez-vous, Didier ?
J'ai 25 ans.
25 ans. Et vous l'avez rencontré à quel âge ?
À 21 ans.
Et comment ? Comment
on
ça a commencé ?
Les deux étudiants.
Oui.
En fait, tout a commencé quand j'avais 21 ans et j'étais au cinquième semestre de la carrière. J'étais en train d'étudier de la médecine à cette époque-là. Et en fait, je l'ai rencontrée car elle était dans la même classe que moi. Et ben, en fait, bon, on s'est parlé, on a développé une très bonne amitié. Et ben, au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle me plaisait et que je lui plaisais. Et ben, à la fin du semestre, on a commencé à être en couple. On s'est mis en couple. Et ben, au fil du temps, ben, après quelques mois, après la première année, ben, tout se passait ben, vraiment très très bien. Elle m'avait beaucoup de confiance, je l'avais beaucoup de confiance, ça marchait vraiment bien, mais les problèmes ont apparu quand elle a connu ma famille et quand j'ai connu en fait sa famille.
Pourquoi ?
En fait, je me suis rendu compte en fait que nos familles étaient ben, très très différentes. Mmh. Et bon, de ma part, j'étais dans la doute, j'avais la doute tout au fond de moi, si vraiment j'avais envie de rester avec cette famille politique. Et était vraiment si différente à la mienne.
Pardonnez-moi, je dois tendre l'oreille parce que la communication n'est pas évidente. Vous avez dit c'est une différence au niveau politique, c'est ça ?
Pas au niveau plutôt social.
C'est-à-dire
en fait, dans un premier temps, il y avait un peu l'aspect des croyances entre les familles. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais le Mexique est l'un des pays les plus catholiques au monde.
Mm-hmm.
Moi, personnellement, je n'ai rien contre les croyances des personnes. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas si malheureusement ou quoi, mais moi, je viens d'une famille qui n'est pas catholique. Ma famille est plutôt protestante. Et donc, voilà... le copain de ma sœur est protégé. Autant plus, mes cousins, les fils de la sœur de ma mère, sont protestants à leur tour. Ils sont déjà mariés, même s'ils ont un peu mon âge. Et leurs conjoints sont protestants aussi. Donc du coup, quand je lui dis à mes parents, et plus à ma mère, que j'étais en couple avec cette jeune... elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas protestante. En plus, bon, sa famille est vraiment très, très catholique. Ils ont un oncle prêtre. Et donc, voilà.
Mais pour eux, c'est important.
À dire oui.
Entre vous deux, est-ce que c'était un problème avant de parler de la famille ?
Non.
Non.
Mais bon, en fait, moi j'avais en fait très envie de partager dans ma vie avec elle, de faire des projets avec elle, de voir un futur avec elle, quoi. Et ben, ces différences de famille, c'était un problème pour moi.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, on a commencé par ça, mais ma famille a commencé à mal percevoir ma relation avec elle. Principalement ma mère qui me disait ce n'est pas pour toi, elle n'est pas pour toi, pardon, elle n'est pas pour toi. Elle m'a commencé à dire par exemple que si je la mariais, bon, si j'étais plus de temps avec elle, je devais en quelque sorte faire partie de sa famille plutôt qu'elle fasse partie de la mienne. Et c'était ça un peu le problème. Ma famille ma famille n'acceptait pas tellement la relation que j'avais avec elle.
Donc d'accord, si je comprends bien, le poids des deux familles a été trop lourd et c'est ça qui vous a amené vers la rupture ?
Oui, c'est ça en fait. Mmh. On s'est rendu compte que le traitement... pas le traitement, mais la façon d'être de ma famille vis-à-vis du copain de ma sœur était contente et plus favorable que la forme d'être avec elle et vis-à-vis de mon couple. On s'est rendu compte que ben, pratiquement, il n'était pas aussi bienvenu chez moi, chez ma famille. Et ben, elle a fini par dire ben, « j'en ai assez » et ben, elle m'a quitté.
Ok, c'était à combien de temps cette séparation ?
2 mois, à peine.
Mmh. Et pour quelle raison m'appelez-vous alors ce soir, Didier ? Qu'est-ce que vous aimeriez que je puisse faire pour vous ?
Ben, moi, en toute ma vie, j'ai été quelqu'un d'assez timide, d'assez timide.
Mmh.
Et donc, les relations entre les gens, c'est quelque chose d'assez différent pour moi, bon, difficile pour moi. Quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, c'était vraiment très, très difficile de faire des copains, de faire d'amis. Et puis à la fac, ça n'a rien changé. Et bon, du coup, c'est difficile pour moi de me relationner avec les gens. Et ben, je ne sais pas, moi, je suis très, très préoccupé car je ne sais pas si j'arriverai à connaître quelqu'un comme elle, quelqu'un avec qui je pourrais partager ben, quelque chose d'assez important, avec quelqu'un que je puisse avoir une confiance aussi importante comme celle que j'avais avec elle, ou bien une certaine confiance.
C'était la première, vous m'avez dit, la première femme de votre vie ?
Oui, c'était la toute première.
Oui, donc ça, c'est souvent comme ça, vous savez, quand la première histoire se termine, on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un d'autre. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que si, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Par contre, ce qui me paraît important, si vraiment la religion et la famille ont une importance et du poids, comme ça a l'air d'être le cas, essayez de choisir quelqu'un qui a la même religion que vous. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes résultats.
Mais bon, c'est ça un peu le problème, car moi, je ne veux pas connaître quelqu'un seulement pour la religion ou autour de la religion. Moi, j'aimerais connaître quelqu'un à part, ou même avec des intérêts communs, mais avec ce problème de différentes religions, non, ça serait vraiment très très difficile pour moi.
C'est ça, oui. J'ai bien compris que pour vous, ce n'était pas prioritaire, mais visiblement, ça l'est pour beaucoup de familles. Et ça risque, de vous poser vraiment un souci. Dites-moi, comment se fait-il que vous parlez aussi bien français ?
En fait, j'ai été dans une école française depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Je fais donc une formation française. Et bon, du coup, j'ai reçu mon bac et tout. Mais bon, par contre, j'ai jamais eu l'opportunité de visiter la France.
Mmh.
En fait, mon seul voyage à l'international, que je fais a été à l'âge de 6 ans, quand j'ai visité des oncles à Los Angeles. Mais bon, à part ça, je n'ai jamais sorti du pays.
En tout cas, vous parlez vraiment drôlement bien, mais je pense qu'il faut arriver à reprendre confiance en vous, parce que vous êtes jeune, 25 ans. C'est votre première histoire. Bien sûr, il y en aura d'autres.
Ah oui, j'aimerais bien. Mais bon, c'est ça un peu le but de mon appel. Ben, je ne sais pas si vous avez quelques conseils, en fait. Ah oui, j'ai peu de confiance en moi. C'est ça le problème avec moi.
Je pense que c'est...
En termes de mes études, je me sens un peu déçu de moi-même. Ben, je suis rentré avec plein de rêves, de expectatives. Mais du coup, je n'ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Ben, je sais pas, moi, je me sens déçu aussi de moi-même.
C'est peut-être aussi la phase un petit peu dépressive après la séparation, ce qui fait que quand on voit tout en gris comme ça, on ne s'aime plus non plus soi-même.
Oui, c'est vrai.
Et ça va revenir. Qu'est-ce que vous faites pour rencontrer du monde ? Est-ce que vous sortez ? Est-ce que vous avez des activités ?
Oui, je suis des activités, en fait. Je suis des groupes de conversation français. Il y a beaucoup ici au Mexique. J'aime beaucoup parler en français avec les gens, mais bon, c'est vrai que personne ne s'intéresse pas aussi bien dans le français que comme j'aimerais. enfin, c'est difficile de parler avec quelqu'un natif ou quelqu'un, enfin, parler avec quelqu'un aussi couramment que ça, les Français. La plupart des personnes qui sont dans ces groupes de conversation français parlent un niveau intermédiaire ou passif le français.
Mais attendez, vous ne cherchez pas une prof de français, vous cherchez une amoureuse?
Non, oui, je sais, mais
c'est pas...
Le français, c'est quelque chose d'important pour moi aussi.
Oui, mais c'est pas forcément dans cet univers-là que vous allez trouver quelqu'un. C'est pas un critère, ça. Est-ce que vous auriez envie ce soir qu'on lance un appel sur l'antenne pour que des jeunes filles éventuellement entrent en contact avec vous?
Ça serait pas mal.
Avoir une correspondance à distance déjà, au moins. Parce que maintenant, c'est quand même assez facile de se parler avec Skype ou Zoom ou des outils comme ça.
Oui, oui. J'aimerais bien.
Ok. Alors parlez-nous un tout petit peu plus de vous, Didier. Comment êtes-vous physiquement?
Alors, je mesure 1m82. Mmh. Je ne suis pas grand, je ne suis pas, désolé, pas gros ni quoi que ce soit, je suis normal. Je pèse environ 70 kilos. Je suis brun, brun de cheveux bruns. Et c'est tout, j'ai fait de la médecine. Je me trouve actuellement dans ma dernière année de médecine.
Vous vous dirigez vers quel domaine?
J'aimerais bien me diriger vers la cardiologie, principalement. L'année prochaine, je vais faire mon examen pour l'internat. Ici, on l'appelle résidence, la résidence médicale. Et j'aime beaucoup aussi la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. Et aussi l'astrologie un tout petit peu.
Alors, de caractère, on a bien compris que vous êtes quand même plutôt réservé.
Oui, un peu.
Est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil ou plutôt quelqu'un qui peut se mettre en colère facilement?
Non, plutôt quelqu'un de gentil.
Bon, ça c'est plutôt...
C'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, j'espère, ou plutôt j'essaye de donner la meilleure version de moi, mon meilleur côté. Et c'est vrai que je valorise tout l'amitié que je puisse avoir avec les autres.
Et à l'inverse, alors quelles sont les femmes qui vous plaisent? Qu'est-ce qui vous plaît? Je ne parle pas forcément physiquement, mais déjà au niveau du caractère. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez une femme?
Un peu la personnalité. Principalement, si elle n'est pas intéressée, ça ne me plaise pas. Les gens qui ne se voient pas intéressés ou
sincère.
Qui ne s'intéressent pas aux conversations, ou qui sont plutôt superficielles. Ou bien qui ne s'intéressent pas aux conversations, qui sont plutôt superficielles ou quoi que ce soit.
Mais est-ce que vous aimez plutôt les jeunes filles qui sont bavardes, qui sont extraverties ou plutôt plus réservées?
Non, plutôt bavard. Ça serait une contrepartie pour moi.
Vous avez besoin
que... Moi, je suis un...
Oui.
Pardon?
Vous avez besoin qu'on vous secoue un peu?
Oui, un tout petit peu.
Écoutez, l'appel est lancé. Si des jeunes femmes souhaitent entrer en contact avec vous, à ce moment-là, on fera l'intermédiaire.
Ah, merci. En plus, s'ils sont bien évidemment intéressés, ou je ne sais pas moi, à apprendre l'espagnol, ou à améliorer son espagnol à l'oral, ou plutôt qu'ils veulent plutôt connaître le Mexique ou la culture mexicaine, ça serait vraiment, vraiment cool.
Ce serait un bel échange. Je crois qu'on a votre mail, Didier. Est-ce que c'est par ce biais-là que vous êtes entré en contact avec nous?
Oui.
Donc c'est parfait, on va garder votre mail. Et puis je suis persuadée qu'à l'écoute de cette émission, probablement aussi en podcast, en replay, il y aura beaucoup de jeunes femmes qui vont être intéressées et qui vont entrer en contact avec vous. Okay. Vous faire oublier un petit peu cette première désillusion amoureuse, mais qui ne sera qu'une étape dans votre vie de jeune homme. Vous verrez, il y aura d'autres belles histoires derrière.
Merci Sabine, c'est gentil.
J'en suis persuadée. Vous me rappellerez pour me donner de vos nouvelles? Me raconter un petit peu?
Bien sûr que si.
D'accord?
Oui.
Bon, je vous embrasse, Didier.
Je vous embrasse.
Et passez une bonne journée, puisque pour vous, c'est encore la journée.
Merci, bonne continuation.
Merci, au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et il me reste le temps d'accueillir Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Ben, je vais... Là, depuis que j'ai perdu ma femme, décédée, et comme on n'était pas mariés, puis je me suis toujours occupé d'elle, puis c'est son fils, il a vendu la maison, puis bon, soit je suis dans ma voiture, soit je suis à l'hôtel, et j'arrive pas à faire le deuil de ma femme.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ma femme était malade, puis toujours, elle avait perdu ses reins, et elle avait été greffée, puis elle avait reperdu ses reins, puis elle fumait, tout ça, puis avec la cigarette, elle est morte décédée le 10 juillet.
Oui, c'est tout récent.
Et puis, comme là, j'étais obligé aujourd'hui, là, comme je ne pouvais pas rester dans la voiture tout le temps avec mon chien, j'étais obligé de le redonner à l'éleveuse. Et ça fait, c'est dur.
Vous étiez ensemble et pas mariés, c'est ça?
Non, on était ensemble, on a vécu ensemble, mais on n'était pas mariés.
Depuis combien de temps vous étiez ensemble?
13 ans.
Oui. Et vous viviez où?
À Champigny-sur-Marne.
Non, pardon, mais c'est une mauvaise question. Je veux dire, dans une maison qui appartenait à l'un de vous deux?
À elle.
Ah oui, ça appartenait à elle.
Et comme on n'était pas mariés, ils ont vendu, puis bon...
Ils vous ont laissé, ils vous ont laissé comme ça?
Ils m'ont laissé 2 mois, mais après, ils ne m'ont pas laissé plus longtemps pour trouver un logement.
Vous n'étiez pas en bon terme avec eux?
Bah son fils, il s'est jamais occupé de sa mère pendant qu'elle était malade. C'est toujours moi qui s'occupais d'elle. Mmh. Jamais prenait ses nouvelles de sa mère. Il y a toujours moi qui vois. Des fois, elle se sentait parce que, comment je veux dire, elle a été mariée, elle a été divorcée, puis son mari l'a abandonnée parce qu'elle était malade. Donc moi j'ai pris la suite, mais moi je me suis toujours occupé d'elle parce que pour moi c'était important, je ne pouvais pas laisser quelqu'un qui est par rapport à son handicap, sa maladie.
Et puis vous l'aimiez, j'imagine?
Bah oui, pour moi c'était la femme de ma vie.
Donc vous avez été là, et puis du jour au lendemain on vous met dehors pratiquement, quoi.
Ouais.
Si je comprends bien, vous n'avez pas de travail non plus?
Si, je travaille. Si, ça, je travaille. Mais bon, c'est pas trop bon de trouver un logement en région parisienne. C'est pour ça que je peux pas 50 euros par jour, je peux pas mettre tous les jours, mettre 50 euros par jour pour... Ça fait 1500 euros par mois.
J'ai pas compris, les 50 euros par jour, vous parlez de quoi?
Dans l'hôtel, si je vais tous les jours à l'hôtel.
Et vous n'arrivez pas à trouver un logement?
Pour le moment, non, j'arrive pas à trouver de logement. Non.
Vous êtes passé par quel circuit?
Là, j'étais à la mairie, tout ça.
Oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Par mon boulot, ils essayent de trouver, mais pour moi, ils n'ont pas trouvé. Par le 1% logement.
Mais là, on n'en est même pas au 1% logement. On est dans le domaine d'un logement de... J'allais dire d'urgence, de centre, non?
Parce que là,
il fait encore relativement doux, mais le climat va changer dans peu de temps.
Mais pour moi, ils recherchent un truc d'urgence, mais ils ne les ont pas trouvés pour le moment.
Vous êtes allé quand?
Là, je suis en arrêt maladie parce que je suis en dépression. Depuis qu'elle n'est plus là, je déprime.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide là en ce moment?
Si, je téléphone du coup à mon assistante sociale du boulot.
Oui. Et?
Mais pour le moment, il y a rien, toujours. Ça avance pas.
Est-ce que vous pourriez avoir accès à une psychologue pour parler davantage? Vous pouvoir vous confier à quelqu'un sur ce décès qui est très douloureux encore?
Oui, mais pour moi, je ne connais pas vraiment pour m'orienter de ce côté. partie-là.
Mais vous, vous dites que vous êtes en contact avec l'assistante sociale de votre travail. C'est son boulot, à elle, de vous orienter.
Ben, je l'appelle des fois, mais elle me rappelle, mais bon, pour le jour, elle ne trouve pas de solution pour le moment.
Et donc, pour l'instant, vous êtes dans votre voiture?
Un jour sur deux, je suis dans la voiture.
Et un jour sur deux à l'hôtel, oui, parce que c'est compliqué. Oui. Il y a deux histoires dans votre histoire, Pascal. Il y a ce deuil-là qui est très douloureux et qui est encore très récent. Et puis, il y a cette situation d'urgence matérielle. Votre travail, est-ce que c'est un CDI?
Oui, c'est un CDI.
Bon, donc, logiquement, ça devrait être rassurant aussi pour un éventuel propriétaire. Vous chercheriez dans quel coin?
Dans le 94?
Oui.
Ou 93, je ne sais pas, en région parisienne.
Mmh. Et vous pourriez mettre combien maximum comme loyer?
Dans les 600 à peu près.
D'accord, ça c'est pareil, on ne sait jamais si quelqu'un ce soir dans ces deux départements-là a un bien dans cet ordre-là, à ce moment-là on fera aussi le lien. Mais il ne faut pas la lâcher, votre assistante sociale, parce qu'elle est vraiment là pour vous aider aussi dans ce domaine-là.
Oui.
Que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan psychologique, et vous orienter vers les bonnes associations, il y en a tellement. Vous pouvez aussi frapper à la Croix-Rouge. Chez Emmaüs, tous ces gens-là sont là aussi pour vous écouter, vous orienter.
Comme je ne sais plus où j'en suis.
Vous êtes perdu. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment que quelqu'un puisse vous orienter concrètement.
Bah, tous les soirs, des fois, souvent, je pleure par rapport à ma femme.
Bah, ça me paraît normal. C'est humain, Pascal. Vous avez du chagrin.
Ouais.
Quel âge avait-elle?
Elle avait 60 ans. Elle a eu 60 ans le 12 septembre.
Pascal, je suis désolée, je n'avais pas vu que le temps passe à cette vitesse-là. L'émission se termine. Est-ce qu'on peut se rappeler demain soir? Je n'ai pas envie de vous laisser tout seul comme ça.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien qu'on vous rappelle demain soir et qu'on discute plus longuement?
Oui.
Alors je vous promets que je serai là pour vous demain.
Merci. Et
d'ici là, je vais essayer de trouver quelques solutions, quelques pistes pour pouvoir vous orienter, d'accord?
Merci, c'est gentil.
Passez une bonne nuit, Pascal. Je vous embrasse et je vous promets qu'on se parle demain.
Merci.
À demain. Et oui, l'émission se termine déjà, le temps passe très très vite. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir, témoignage très poignant. Merci à vous aussi pour vos SMS. Je vous retrouve demain à partir de 23h pour de nouvelles confidences, de nouveaux moments de partage. D'ici là, prenez soin de vous, je vous quitte avec la phrase du jour. Si tu veux réellement quelque chose, tu trouveras une façon de l'obtenir. Sinon, eh bien, tu trouveras une excuse. Bonne nuit et à demain.